D'abord, le masque que je porte aujourd'hui, qui fait un petit peu un bec de canard, là, c'est un masque qui est fabriqué par l'entreprise Mod Jet Set, une entreprise de Normand Panton. Donc, c'est fait à Montréal, puis c'est vendu dans plusieurs magasins au Québec. Donc, j'invite les Québécois à porter soit ce masque-là ou un autre, mais si vous êtes capable d'en acheter un au Québec, faites au Québec, c'est encore mieux. Comme vous le voyez aujourd'hui, en plus du docteur Arruda et de la ministre de la Santé, j'ai de la belle visite, la ministre de la Culture, qui a des belles nouvelles à nous annoncer. Je veux aussi saluer dans la salle, je crois la reconnaître, Sophie Préjean. Non, non, gardez votre masque, c'est correct. Donc, la présidente de l'Union des artistes. Yannick Nézet-Séguin, notre grand chef d'orchestre. Et puis, on me dit aussi qu'il y a Luc Fortin, président de la Guilde. Il est là. Donc, des musiciens. Donc, on va y revenir tantôt. Je veux d'abord dire un mot aux Québécois sur ce qui s'est passé aux États-Unis dans les derniers jours, là, la mort tragique de George Floyd. Évidemment, on a tous été touchés, là. Ceux qui ont vu la vidéo, de voir le policier qui met son genou sur la gorge, le pauvre George Floyd qui implore de le laisser respirer, puis en plus d'autres policiers à côté qui font rien, là. Donc c'est vraiment choquant, révoltant, puis je comprends tous les gens qui ont été révoltés, et je suis solidaire d'eux autres. Ça montre qu'on a encore du travail à faire pour lutter contre le racisme. C'est pas ça le genre de société qu'on veut au Québec. Et donc, comme premier ministre du Québec, là, je dénonce fortement, puis je demande à tout le monde de continuer. On sait que malheureusement, ça existe encore, et il faut lutter contre le racisme. Tous les êtres humains sont tous égaux, sont tous pareils, donc peu importe la couleur de leur peau. Donc, c'est important de le rappeler. Bon, je sais qu'il y a eu une manifestation hier à Montréal. Je sais qu'à la demande du docteur Arruda, la grande majorité ont respecté le 2 mètres, ont fait ça dans la paix. Malheureusement, quelques casseurs ont brisé des vitrines, endommagé des commerces, volé des guitares, entre autres, on a vu ça. Ça, c'est inacceptable. Donc, ce bout-là, là, peu importe qu'on soit choqué, je ne pense pas qu'on aide la cause en faisant ça. Je veux revenir, bien sûr, avant de parler de culture, sur la situation dans nos CHSLD. Bon, vous allez le voir, ça, demain ou dans les prochains jours, on va ouvrir les inscriptions. On le dit depuis le début de la crise, on a depuis plusieurs années, là, peu importe les partis politiques, là, on est tous un peu coupables, travailler dans nos CHSLD avec environ 10 000 personnes manquantes. 10 000. On les a compensées par des personnes pas nécessairement formées, qui ont fait leur gros possible, puis je les remercie encore. Mais là, on va lancer, à la mi-juin, une formation de 3 mois qui va être payée 740 $ par semaine pendant la formation. Puis ensuite, les gens vont commencer à 49 000 $ par année pour ceux qui vont travailler à temps plein. Donc, je lance un appel. Demain, on va vous donner probablement toutes les adresses, les centres de formation professionnelle où les formations vont se donner. Ils vont se donner en partie dans les centres de formation professionnelle, puis en partie dans les CHSLD. Puis je pense que on doit ça à nos aînés, là, d'avoir 10 000 personnes de plus formées qui vont rendre aussi les conditions de travail plus agréables pour ceux qui sont déjà là, puis qui vont permettre justement aux préposés d'avoir un petit peu plus de temps pour échanger avec les résidents, les résidentes. On aurait dû faire ça depuis au moins une dizaine d'années, 20 ans, mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été passé en priorité par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans nos hôpitaux. Donc, il est temps qu'on corrige la situation d'un CHSLD. Mais pour ça, j'ai besoin de 10 000 personnes de tous âges. Donc, je le répète, engagez-vous, 10 000 emplois là, pour changer, améliorer la vie des personnes qui sont vulnérables. Je reviens sur le bilan du jour. Bon, vous l'avez déjà vu. Heureusement, les indicateurs s'améliorent, donc moins de cas, moins d'hospitalisations, moins de décès. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée, donc il faut continuer à porter le masque, respecter les consignes pour être certain qu'on ne revienne pas en arrière, pour être certain qu'on n'engorge pas nos hôpitaux, parce que justement, si on parle de nos préposés et de nos infirmières, ils ont besoin, comme on dit en chinois, d'un break. Hein? Ils ont besoin d'un gros break, et puis on veut leur donner, puis on va leur donner au moins 2 semaines de vacances de suite cet été, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle vague là, en plein été. Donc, pour ça, le masque, on garde le 2 mètres. Donc, la situation étant meilleure, ça nous permet de continuer le déconfinement. Puis aujourd'hui, bien, très content, puis un plaisir particulier de parler de culture. On le sait, puis je le répète souvent, la culture, c'est l'âme du peuple québécois. Les Québécois adorent leurs artistes et ils sont ennuyés de leurs artistes. Oui, on les a vus dans quelques pubs, puis j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Il y a beaucoup d'artistes qui ont accepté de transmettre les consignes, entre autres du Dr Arruda. Puis, je suis certain que ça a aidé à ce que les Québécois adhèrent aux consignes depuis le début, donc j'en profite pour remercier les artistes. Bien sûr, la situation a été difficile. On a juste à penser aux salles de spectacle, aux salles de théâtre. Et évidemment, là, bon, on travaille très fort pour réouvrir graduellement avec un certain nombre de spectateurs. On n'est pas encore rendu là, mais moi, je suis certain que nos artistes sont capables d'être créatifs pour continuer bientôt, là, dans les prochaines semaines, à ce qu'on voit nos artistes puis que nos artistes soient à l'œuvre. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui un projet ou des projets, un plan de 400 millions de dollars en culture. 400 millions, pour vous dire, là, il y a à peu près 150 millions, c'est du réaménagement de budget, mais il y a un 250 millions, c'est du nouvel argent. Donc, c'est de l'argent qui est en plus des budgets qui étaient déjà annoncés. Puis des budgets déjà annoncés, rappelons-nous, hein, même ça a l'air loin, juste avant le début de la crise, on avait annoncé un budget en culture qui augmentait de 12 %. Bien là, on rajoute 250 millions. Une partie qu'on a commencé à dépenser pour les organismes, donc 109 millions. Et le reste, bien, ça va être distribué selon des appels d'offres. Là. Nathalie va nous l'expliquer tantôt. Ça va être géré beaucoup par la SODEC. Mais j'ai demandé à SODEC de faire ça plus vite que d'habitude. Donc, plutôt que de prendre beaucoup de temps pour tout analyser, tous ceux qui ont des projets de prêt, là, c'est le temps de les déposer. Puis, donc, on a, disons, si on met le 100 millions de côté pour les festivals, les théâtres, tout ça, donc il y a un bon 300 millions qui est disponible là, pour toutes sortes de captations. Donc, ça veut dire des émissions de télévision, comme District 31, des séries télévisées, des films, des pièces de théâtre, mais qui sont captées, évidemment, on ne peut pas avoir des salles complètes, des concerts, des projets de danse, des projets en musique. On sait qu'on est bon en musique au Québec, des projets d'écrivains. Puis on veut aussi, puis vous allez le voir tantôt, Nathalie va vous l'expliquer, on veut aussi en profiter. Puis s'il y a un bon côté à cette méchante crise, c'est qu'on va regarder plus vite pour développer toutes sortes de plateformes numériques. Donc, pas seulement regarder nos artistes à la télévision, mais sur toutes sortes de plateformes. Donc, fait vraiment plaisir d'annoncer ce plan-là de 400 millions. Et puis, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais j'ose le dire. S'il y en a pas assez, on regardera ça. Mais je veux que les projets, là, je le dis, les artistes, ceux qui ont des projets, là, c'est le temps de déposer ça, là, des projets de tout type. Là, on veut vous voir, puis on veut vous remettre au travail, puis on veut que les Québécois voient leurs artistes. Les remerciements du jour, en terminant, c'est la semaine des personnes handicapées. Je vois Sophie Préjean. On a Marilyn Picard chez nous, qui a un enfant lourdement handicapé. On le sait, la crise, c'était encore plus dur pour les personnes handicapées puis pour les parents d'enfants handicapés. Parce que là, on parle de déconfinement de certains commerces, de certaines activités, mais il faut se rappeler qu'il y a des personnes handicapées qui sont confinées à vie. Hein, ça, c'est la triste réalité. Puis il faut tous se demander comment on fait, d'ailleurs, puis c'est une question qu'on devrait tous se poser, là, les propriétaires de commerce, toutes les activités, pour donner un meilleur accès aux personnes handicapées. On a aussi Lionel Carman, puis Jean-François Roberge, qui travaillent sur toutes sortes de programmes de répit, des camps de jour, pour les personnes handicapées. On fait une exception aussi partout là, pour peut-être que les normes du 2 mètres. Je fais attention à ce que je dis, je vais me faire chicaner. Là, mais en tout cas, c'est très important qu'il y ait des activités pour les personnes handicapées. C'est important pour les personnes handicapées. C'est important aussi pour les parents d'enfants handicapés, surtout qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école depuis un bon bout de temps. Donc, on réouvre aussi des classes d'enfants handicapés. On ne le dit pas aussi assez souvent, nos CHSLD, il y a peut-être 90 % que ce sont des personnes aînées, des aînés, mais il y a un 10 % ce sont des personnes handicapées. Puis vous savez, on va graduellement, on ne fera pas tout ça du jour au lendemain, mais on va remplacer les CHSLD par des maisons des aînés. Mais il y a certaines maisons, ça va être des maisons alternatives pour des personnes handicapées. Donc, c'est pas toujours correct, à mon avis, de mettre des personnes handicapées avec des aînés. Il y en a des jeunes qui ont besoin d'avoir un entourage qui est jeune, donc il y aura des maisons alternatives. Là, Marguerite commence déjà à en annoncer d'ailleurs. Donc, mes remerciements de jour, tous les enfants handicapés, toutes les personnes handicapées, tous les parents d'enfants handicapés, on pense à vous autres, puis on essaie de vous aider. En terminant, ben, je répète les trois consignes. On porte un masque, même si ça peut être achalant, on va s'habituer un petit peu, puis ça va rester achalant. Mais pensez juste au personnel soignant. Je le disais tantôt qu'il y a besoin d'un break, là. Si ça ne vous tente pas un jour de porter le masque, dites-vous que vous ne le faites pas pour vous, pour les autres, puis pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de personnes qui se ramassent dans nos hôpitaux, puis qui empêchent notre personnel de prendre un break cet été, d'avoir des vacances plus que mérité. Puis bien sûr, on garde le 2 mètres, on se lave les mains régulièrement. Donc, je compte sur vous. Merci pour votre appui. Good afternoon.
Bon, ben, écoute, là, c'est beaucoup d'argent là, que le premier ministre vient d'annoncer pour la culture, Julie Christine. Évidemment, Nathalie Roy, tout de suite après l'intervention en anglais du premier ministre, va prendre la parole, nous donner plus de détails.
Oui, c'est un plan de 400 millions de dollars. Mmh. Donc, ça inclut là, le 250 millions de nouvel argent. Là. Oui. Puis le reste était déjà dans des budgets existants. Puis il a dit... Si c'est pas assez, on regardera ça. Il ne faut pas que je dise ça, là, mais... Oui. Alors vraiment, c'est quand même une somme intéressante. Là. Oui. 300 millions pour des projets. On va aller en appel d'offres pour démarrer des nouveaux projets. On parle de captation, de films, de séries, de pièces de théâtre, de concerts, de danse, de musique. Mm. Alors le premier ministre a dit, là, vraiment, si vous avez des projets, c'est le temps de nous les envoyer. On va regarder ça attentivement. Et les plateaux de tournage vont pouvoir ouvrir à compter de lundi prochain. Ça, c'est une excellente nouvelle. Les gens entendaient ça avec impatience.
Ben oui, parce que si on veut voir la suite de nos séries favorites, encore faut-il qu'ils les tournent.
Exactement.
Et donc, on va pouvoir notamment, on a parlé avec Fabienne Larouche vendredi, là. Elle est en train de discuter avec ses acteurs, les principaux acteurs de sa série, parce que là, il fallait qu'elle les convainque de s'installer à l'hôtel 14 jours en confinement avant le début du tournage.
Oui.
Hein, tu sais, fait que là, c'est des sacrifices. Qu'est-ce que tu veux? C'est des sacrifices. Bon, très bien.
Une nouvelle façon de faire les choses.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, ben, c'est ça. Il nous a parlé également aujourd'hui les personnes handicapées, les enfants handicapés en particulier. Il dit qu'il ne les oublie pas.
Non, c'était ses remerciements du jour et franchement, c'est bien parce qu'effectivement, c'est dur pour tout le monde. Mmh. Imaginez les jeunes, je pense entre autres aux enfants handicapés là, qui des fois n'arrivent pas trop à comprendre ce qui se passe. Les consignes, pas évident pour eux non plus. Alors, on les remercie aujourd'hui.
Monsieur le Premier ministre.
La ministre de la Culture.
Je suis très, très contente d'être ici ce matin avec d'excellentes nouvelles, je l'espère, pour le milieu de la culture. Et je suis particulièrement fière de faire cette annonce en compagnie de notre premier ministre. Également, j'aimerais souligner et saluer la présence, entre autres, de Mme Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes, M. Luc Fortin, président de la Guilde des musiciennes et musiciens, et maestro Yannick Nézé-Séguin, chef de l'Orchestre métropolitain. Vous devez avoir hâte de recommencer ici, vous, je sens ça. Alors, l'annonce que nous faisons aujourd'hui donnera, je l'espère, de l'espoir aux artistes du milieu culturel, de toutes disciplines confondues, pour qu'ils se mettent à créer et pour que vous puissiez recommencer à travailler dès maintenant. Alors, la pandémie, elle a tout arrêté. Alors là, on peut parler d'un nouveau départ. Nous allons donner aux artistes et aux artisans de puissants outils pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux et qu'est-ce que c'est, ce n'est pas de créer. Notre budget historique en mars dernier, vous en souvenez peut-être, avait pour objectif de penser en dehors de la boîte, de donner aux créateurs des moyens qui répondent à leur créativité. Notre objectif était aussi d'encourager l'émergence et la création de contenus innovants. Et c'est là qu'on parle entre autres de plateformes, de nouvelles avenues informatiques. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, on se rend bien compte que notre vision, elle est plus pertinente que jamais, puisque les artistes doivent s'adapter à de nouvelles réalités et faire les choses différemment pour entrer en contact avec le public. On n'a pas le choix, c'est la COVID qui l'exige. Mais s'il y a des gens qui ont toute la créativité nécessaire pour y arriver, pour relever ce nouveau défi, ben ce sont bien les artistes. Donc, pour les aider à créer et recommencer à travailler, je vous annonce que notre gouvernement porte à près de 400 millions de dollars son investissement dans la relance du secteur culturel. Notre plan porte donc les sommes dédiées à la culture à un niveau inégalé de plus de 971 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 26 % par rapport au budget de 2019-2020. Voici maintenant les grands axes de notre plan. Tout d'abord, 91 millions et demi de dollars seront investis en production cinématographique et télévisuelle pour permettre, entre autres, à nos producteurs de faire des films avec plus de moyens et des séries télé à la hauteur de leur imagination. Nous accordons 71,9 millions pour aider les entreprises et organismes culturels qui ont dû fermer leurs portes au public pendant la pandémie. Nous investissons 50,9 millions pour soutenir les arts de la scène dans la création et la diffusion de spectacles innovants grâce à des appels à projets qui sont prêts, là, Monsieur le Premier ministre, pour poursuivre leurs pratiques en respect des nouvelles mesures sanitaires avec lesquelles ils doivent maintenant composer. 33 millions et demi de dollars iront à l'industrie de la musique et les artisans, ces artisans, pour qu'ils puissent, entre autres, relever les défis liés aux nouvelles habitudes d'écoute. Et naturellement, les défis liés avec ces fameuses mesures sanitaires qui sont désormais imposées. Par ailleurs, comme nos artistes et nos écrivains ont souvent des statuts très précaires, notre plan comporte aussi une aide spécifique pour eux de 6,5 millions de dollars afin de mieux rémunérer leurs œuvres. Une partie de cette enveloppe de 6,5 millions sera d'ailleurs dédiée à un fonds d'urgence et géré par l'Union des artistes et la Guilde des musiciennes et des musiciens. Pour ce qui est des festivals et des événements qui ont dû être annulés, on bonifie les aides existantes de 5,9 millions pour encourager la tenue d'événements en ligne, les programmes 100 % québécois et les commandes d'œuvres originales présentées en première mondiale. De plus, on nous l'a demandé, il va de soi que nous investirons en publicité et en promotion pour relancer la culture québécoise 13 millions de dollars. C'est important, on veut que les gens reviennent en salle. Par ailleurs, Je vous rappelle qu'à la fin du mois de mars, et ça, ça a un petit peu passé dans le beurre, on ne l'a pas trop vu, mais nous avions consacré 59 millions de dollars en devancement de crédits aux organismes culturels. Ça veut dire que plus de 1000 organisations, des musées, des bibliothèques, des écoles en art, des théâtres, et j'en passe, il y en avait 1000, ont déjà reçu 6 mois de liquidité. Toujours fin mars, nous avions aussi lancé un programme de 50 millions de dollars en prêts adaptés aux entreprises culturelles leur permettant d'assurer un fonds de roulement à court terme. Je vous annonce donc que notre plan de relance ajoute un autre 50 millions de dollars à ce programme de prêts de la SODEC qui connaît une grande demande. Plusieurs entreprises culturelles y ont souscrit et ça les aide beaucoup pour passer à travers. Notre plan comporte aussi plusieurs autres mesures, des programmes et des appels à projets qui sont entièrement nouveaux. Alors, je vous invite à consulter le site du ministère de la Culture et des Communications pour avoir tous les détails. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous le disiez, ils sont prêts, ces appels à projets, ils sont prêts, ces programmes. Vous avez des idées, vous êtes nos plus grands créateurs. Votre créativité est reconnue partout sur la planète. Alors, postulez, souscrivez. L'argent est là pour vous payer, pour créer, en attendant de pouvoir revenir à la normale. Et comme ça peut prendre un petit bout de temps, mais on a mis de l'argent pour vous aider à y arriver. Maintenant, et comme je vous dis, le plan, il y a d'autres mesures, mais allez voir en détail, il y en a énormément. Là, on a d'autres bonnes nouvelles en ce qui concerne le décloisonnement en culture, parce que nous sommes toujours cloisonnés, ne l'oublions pas. Donc, je vous annonce que dès le 8 juin prochain, c'est l'industrie de la production audiovisuelle, de la pré-production à la post-production qui pourra reprendre ses activités, toujours en tenant compte des mesures émises par la Direction de la santé publique et en se conformant au guide de la CNESST qui a été spécifiquement créé pour ce secteur. Et je voudrais en profiter, M. le Premier ministre, pour remercier à cette étape-ci Mme Préjean et M. Fortin. Vous êtes ici, mais je veux vous remercier parce que ces guides-là, ils ont été élaborés par chaque secteur avec les représentants des secteurs, à la demande de ces artistes qui connaissent mieux que quiconque les aléas du métier. Donc, merci pour la collaboration parce que ça a bien été, le guide est là et vous avez aussi bien relayé l'information jusqu'à vos membres et, et c'est ce que nous vous demandions de faire. Alors, merci. L'information descend et là, j'invite tout de suite les gens à aller consulter le guide pour savoir comment ça va se passer sur les plateaux de tournage, à la télé et au cinéma. Par ailleurs, les travaux se poursuivent toujours avec les autorités de la santé publique et la CNESST pour la réouverture des autres secteurs en arrêt. Là, je pense particulièrement à celui des arts de la scène et de la diffusion. Alors, il y a toujours des travaux qui sont en cours. Tout ça fera l'objet d'une autre annonce, mais je peux vous dire que on est confiant, là, je regarde le docteur Arruda, là, de pouvoir rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale. Du moins, c'est ce qu'on espère. Évidemment, cette réouverture se fera avec un nombre restreint de spectateurs, on le comprend bien, pour respecter la distanciation sociale. Et tout ça se fera graduellement. Quel sera le nombre de spectateurs qui pourront entrer dans une salle? Je l'ignore. La santé publique nous dira tout ça. Mais tous les détails et la date officielle de l'ouverture des salles feront l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours. Donc, vous comprenez qu'on attend le feu vert de la santé publique. Le guide n'est pas encore complété, mais ça ne devrait tarder. Alors, en terminant, le but des mesures de relance annoncées aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est de donner au milieu culturel son élan avec des outils très puissants qui l'aideront à redéployer sa créativité pour émouvoir et nous rendre fiers comme vous êtes tous capables de le faire. Je voudrais profiter de l'occasion, moi aussi, Monsieur le Premier ministre, pour remercier le milieu culturel et les artistes pour leur patience, leur grande patience, et le public aussi. Les artistes et les artisans du milieu culturel qui nous ont divertis et accompagnés durant ce grand confinement. Merci pour tout ce que vous avez fait et on a tellement hâte de vous revoir en personne. On attend, mais on a hâte de vous voir. Alors, merci, merci pour tout. Bonne journée.
Merci, Madame la Ministre. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a 2 micros prévus à cet effet. Vu le nombre important de journalistes, on vous demanderait de vous limiter à 1 question par journaliste. On va commencer par Michel Jean de TVA Nouvelles.
Bonjour à vous quatre. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Arruda. Bonjour, Madame la Ministre. Monsieur Legault, une question pour vous. Hier, on a une manifestation importante, on ne sait pas exactement, mais il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues de Montréal. Ça s'est bien passé dans la première portion, là, avant que les casseurs entrent en jeu. Mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient déplacés dans les rues de Montréal pour dénoncer le racisme. Il y a à peine plus que 10 % des policiers, par exemple, au SPVM, qui sont issus des communautés culturelles. Il y a une étude qui, en 2019, a dit que il y a les gens des communautés noires, arabes, des Premières Nations aussi ont 4 fois plus de chances de se faire arrêter. Bref, on a visiblement encore un problème. Comment vous pensez qu'on peut régler ce problème-là? Et avez-vous l'impression qu'on en prend vraiment la mesure à l'heure actuelle au Québec? Là?
Oui. Bien, je pense qu'il faut se dire la vérité, là. Oui, c'est grave ce qu'on voit aux États-Unis, puis je pense pas que notre problème soit aussi grave que les Américains, mais en même temps, on peut pas dire qu'on n'a pas de problème. Il y en a des problèmes de profilage racial, manque de représentants dans les forces de l'ordre qui viennent des différentes communautés. Donc, on a encore du travail à faire. Puis je pense que ce qui se passe actuellement, ça nous rappelle tout le monde à l'ordre, puis de dire il y a encore des efforts à faire. Puis bon, évidemment que ça doit venir des forces de l'ordre, que ce soit la SPVM, que ce soit la SQ. Mais moi, je sens quand même qu'il y a une amélioration, mais il y a encore du travail à faire. Donc, faut sensibiliser, faut cas par cas, pas en laisser passer un. Quand ça arrive, faut le dénoncer, faut aller au bout de chaque dossier.
On va y aller avec Marco Bellard-Cirino, Le Devoir.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Monsieur Legault, Madame Roche, je me demandais si le gouvernement comptait aider les salles de spectacle, les maisons symphoniques, de théâtre, de danse, qui pourraient organiser après la fête nationale des spectacles devant des salles, je ne dirais pas quasiment vides, mais avec un nombre réduit de spectateurs pour respecter les règles de distanciation sociale. Et Dr Arruda, est-ce que le plan de la ministre de la Culture de rouvrir les salles au plus tard, à la fête nationale, tient la route.
Vas-y, Nathalie.
Bon, alors, pour répondre à votre première question, actuellement, depuis le début de la pandémie, là, on collige absolument tout pour savoir, quelles sont les salles, où sont les salles, à quoi ressemblent effectivement les conséquences de cette pandémie, de cette fermeture. Actuellement, on travaille sur différents scénarios. Ce plan-là, c'est un début, c'est un gros début, là. Comme M. le Premier ministre le disait, il y aura des ajustements à faire. À l'égard des salles de spectacle, nous voulons aider parce que dans la mesure où la santé publique nous permettra de rouvrir à 50 ou 60 % une salle, donc on le prive de 100 % de sa capacité, il faut faire quelque chose. Alors, tout est sur la table à l'étude actuellement.
Bon, écoutez, on m'interpelle. Alors, probablement, dans un premier temps, je voudrais remercier tous les artistes qui se sont impliqués dans la transmission du message. Vous êtes des modèles pour notre société. Puis l'art, ça fait partie de la vie. L'art, ça soigne l'âme, que ce soit en musique, en danse, en théâtre, en humour, tout ça est essentiel à notre société. Donc, je pense que vous êtes un service essentiel, mais qui a dû passer en séquence, si vous me permettez, derrière d'autres pour des questions de survie. On a besoin aussi de traverser. Je suis content de voir que les chiffres vont bien. Donc, on est dans une période où, je vous l'ai dit, critique dans la région montréalaise. Il faut continuer à respecter les consignes. Mais on travaille très fort avec toutes les entreprises depuis le début et aussi, je vous dirais, avec les gens qui sont des artistes pour être capable de réinventer, si vous me permettez, une façon de faire encore transitoire parce que le COVID-19 ne va pas disparaître. Même si ça va mieux cet été, il pourrait revenir. Donc, je pense qu'on fait tout pour que notre Saint-Jean, qui est notre fête nationale, on puisse peut-être recommencer de façon différente. Peut-être que ça amène ces défis-là, et je pense qu'on l'a travaillé en respectant les principes de distanciation, les bons principes d'hygiène, pour pas que non plus nos artistes tombent malades. Je pense que ce serait triste de perdre de nos artistes, particulièrement ceux qui sont à risque. Mais oui, je pense qu'il faut réouvrir cet élément-là. Il va nous permettre de nous ressourcer, à mon avis, pour affronter ce qui pourrait venir un peu plus tard. Là, je sais que j'ai l'air du rabat-joie en disant que ça va revenir, mais je sais que ça va revenir très probablement. Mais on va être mieux préparé et on va pouvoir peut-être continuer à profiter de la musique, de la danse, du théâtre. Et moi, je peux vous dire que j'ai hâte que mes abonnements soient respectés et que ce qu'on a manqué puisse être repris. Donc, on va travailler au maximum, mais comme je l'ai dit, il faut que ça ne reparte pas. bien entendu, là, parce que si on recommence à avoir, donc respectez, s'il vous plaît, les consignes.
OK. On a un journaliste sur place. S'il y a quelque chose de gros qui se passe, vous le saurez. Luc Lavoie, écoute, il vient quasiment de nous annoncer qu'on va pouvoir avoir, je sais pas si ça va être des spectacles, mais en tout cas des occasions de fêter la Saint-Jean-Baptiste.
Eh oui, ils sont en train d'imaginer, j'imagine. Mm-hmm. Ils sont en train de voir si on pourrait pas trouver des salles où on aurait un moyen de distancier. Entre autres, Bernard, t'as vu comme moi l'idée d'utiliser les cinéparcs, pas seulement pour le cinéma, mais aussi pour présenter des spectacles.
Oui.
Parce que là, évidemment, tout le monde est protégé, ils sont à l'intérieur de leur voiture.
Exact.
Mais en tout cas, je veux dire, M. Legault, c'est clair aujourd'hui qu'il avait l'air d'un homme plus détendu que d'habitude. Et je pense qu'en toute vérité, ça a à voir avec les chiffres qui sont sortis.
Bien sûr.
Enfin, on voit nos chiffres reculer, parce que c'est ce qu'on voit dans le monde entier. Puis ici, ben ça tardait. Et là, il recule de façon marquée. Seulement 20 décès. C'est 20 trop, mais c'est seulement 20 décès.
Mmh. Ah oui.
295 cas répertoriés. De plus, c'est également, oublie pas, on est dans la phase où on teste, à moins qu'on a arrêté,
non.
De 12 à 15 000 par jour.
Ah non, ils testent encore beaucoup. Ils testent encore
alors, beaucoup. À 295, ça veut dire qu'on commence vraiment non seulement à aplatir la courbe, mais à tasser un peu du paysage le virus. Il faut quand même demeurer prudent, parce que je viens juste avant qu'on commence à se parler d'entendre le docteur Arruda dire, et ça m'a surpris, il a dit « ça va revenir probablement », parlant d'une vague de pandémie ou d'épidémie.
Oui.
J'ai dit « ah oui », parce que c'est pas ça le consensus mondial. Pendant longtemps, c'était ça, mais là, de plus en plus, depuis que le déconfinement est commencé en Europe puis en Asie, on le voit pas, la deuxième vague revenir. On l'a vu en Corée un petit peu.
Mais c'est ça, il y a des petites vaguettes, là, mais c'est pas, ça reprend pas vraiment son envol,
non,
hein. C'est
non,
ça.
Non. Même aux États-Unis, là, Bernard, la nuit, les 24 dernières heures, on parle de, j'ai pas le chiffre exact devant moi, mais c'est 500 quelques décès. Écoute, c'est également toute une différence. Et c'est ce qu'on voit partout en Europe, hein. Je veux dire, moi, la deuxième vague, on verra. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que ça baisse de façon substantielle et enfin, je sens qu'on peut respirer.
Très bien, Luc. On se reparle un peu plus tard.
À tantôt.
On s'en va à la pause parce qu'au retour, on s'en va à Minneapolis, là, qui a été le cœur de ces grandes manifestations là qui se sont étendues à l'ensemble du territoire américain. On va aller parler à quelqu'un qui vit là-bas et qui nous dit comment elle se sent. Moi, je vais lui demander, est-ce que vous avez peur?